le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Marie-Adeline Le Guenec de l'Université du Québec à Montréal.
Pour cette balado-diffusion, j'ai choisi un document tout à fait singulier, on pourrait dire même énigmatique, et qui a été en fait une source majeure pour mon doctorat sur le métier d'aubergiste dans l'Occident romain antique. Le document en question, c'est une stèle de calcaire, généralement datée du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a été mise au jour à Isernia, l'ancienne Aesernia, un municipe du Samnium, en Italie centrale, ce qui correspond à la région actuelle du Molise. Cette stèle est aujourd'hui conservée au musée du Louvre à Paris, sous le numéro d'inventaire MA3165. Ce monument particulier, il se compose au registre inférieur d'une inscription en latin publiée dans le CIL 9, au numéro 2689, et au registre inférieur d'un bas-relief figuratif. L'inscription détaille les comptes, l'addition d'un caupo, c'est-à-dire d'un aubergiste, et de son client. Je vais vous citer le texte dans la traduction que j'en ai proposée d'après la lecture de Pierre Flaubert dans les années 1980. Donc cette inscription dit en français « Lucius Calédus Eroticus a fait faire cette inscription de son vivant pour lui-même et pour Fania Voluptas. Aubergiste, l'addition. Tu as un demi-litre de vin, du pain, un as, le plat du jour, deux as. D'accord. La fille, huit as. D'accord pour ça aussi. Du foin pour ta mule, deux as. Cette maudite mule causera ma mort. » Le bas-relief qui accompagne ce texte très vivant représente à gauche l'aubergiste, à droite le client, reconnaissable à son cuculio, son manteau de voyage. Les deux personnages sont en train de compter sur leurs doigts, tandis que la mule du voyageur piaffe d'impatience. L'ensemble forme en quelque sorte une case de bande dessinée avec le dialogue des personnages au-dessus de la scène qui les représente, chaque registre éclairant en quelque sorte l'autre. Cette stèle semble donc nous donner à voir un caupo dans l'exercice de ses fonctions. Et on comprend qu'elle ait particulièrement retenu mon attention, et puis celle d'autres spécialistes, lorsqu'il s'agit d'étudier le fonctionnement concret des auberges de l'Italie impériale, pour lequel, comme c'est souvent le cas pour le quotidien aux périodes anciennes, on manque cruellement d'informations. Si on adopte une lecture réaliste au premier degré de la pierre, on dirait que l'inscription paraît d'abord nous renseigner sur les services offerts par cette auberge à ses clients. Donc en l'occurrence, ici, un repas, boisson, éventuellement un hébergement, du foin pour la monture du voyageur, mais aussi des services de prostitution féminine. Et cet ultime détail ne doit pas nous surprendre, puisque des prestations sexuelles rétribuées étaient souvent disponibles dans les auberges de l'Occident romain, additionnellement ou sous couvert d'activités hôtelières. En outre, le texte nous livre des informations cruciales sur les prix pratiqués par ce caupo, ce qui constitue quasiment un cas unique à l'échelle de l'ensemble de l'Occident romain d'un point de vue documentaire. Et de fait, on l'a vu, la question pécuniaire est au centre de la scène qui est représentée sur le monument, tant dans le dialogue que dans le bas-relief. Alors, cette addition soulève quelques problèmes de détail. Par exemple, le prix du vin n'est pas précisé, mais simplement sa quantité, et pourrait avoir été compris dans le prix du pulmentarium, du plat du jour. Manque également le prix de la chambre. Peut-être que ce copeau n'avait fourni à son client qu'un service de jour avant que ce dernier ne reprenne la route, ou bien ce prix de la chambre pourrait avoir été compris dans celui des prestations de la prostituée. Mais rien toutefois dans l'ensemble qui tranche avec ce que l'on trouve ailleurs, de façon plus éparpillée, dans la documentation relative au monde de l'auberge romaine. Toutefois, les doutes nombreux que soulève la signification de la pierre et de l'inscription invitent à ne pas en rester à cette lecture purement réaliste de la stèle d'Aesernia. La nature de ce document singulier apparaît en effet impossible à établir. Sa forme plastique, le début de l'inscription, un formulaire classique d'épitaphe, suggère bien sûr au premier regard un monument de nature funéraire. Mais vu la teneur du dialogue entre l'aubergiste et son client, s'il s'agit réellement d'une inscription funéraire, son sens apparaît bien incertain. Les épitaphes romaines, on le sait, quand elles s'affranchissent d'un formulaire de base, tendent à faire l'éloge du dédicataire en rappelant le souvenir de sa vie passée et à s'adresser aux vivants. Cela devrait donc être le cas ici également, mais dans ce cas, sur qui et sur quoi porte l'éloge ? Il serait bien sûr tentant de voir dans le Lucius Calédus Eroticus évoqué au début de l'inscription le caupo du dialogue et celui de l'image. La pierre intégrerait donc le corpus des inscriptions et des scènes de métiers romaines, vecteur privilégié de mise en valeur des statuts de travail de ces artisans et de ces commerçants romains. Toutefois, ailleurs dans le corpus, lorsque les aubergistes romains mentionnent leur profession dans des inscriptions, et surtout dans des inscriptions funéraires, ils ont tendance à mettre l'accent sur leur probité, sur leur hospitalité, bref, sur leur qualité commerciale et humaine. Or, c'est plutôt l'impression inverse qui se dégage de ce document, puisque le dialogue se clôt sur les protestations du client au sujet du prix du foin qu'il juge excessif. Et on peinerait alors à voir sur quoi porterait l'éloge de cet aubergiste âpre au gain. Toujours dans cette perspective funéraire, on pourrait alternativement proposer de faire de Lucius Calidus Eroticus le client représenté en manteau de voyage sur le bas-relief. Cette interprétation semble peut-être moins évidente de prime abord, mais aurait en effet une valeur métaphorique. Il s'agirait d'une référence masquée à un motif bien établi au sein de la culture romaine, dans le domaine funéraire et plus largement dans le registre philosophico-religieux, à savoir l'assimilation de la vie à un trajet à parcourir ou à un lieu d'étape où l'homo viator, l'homme voyageur, ne ferait que passer. Le réalisme de l'inscription d'Aesernia s'en trouverait dès lors sujet à caution, dans la mesure où les différentes prestations mentionnées pourraient servir à rappeler de manière symbolique les joies de la vie que le défunt, dans son voyage vers l'au-delà, a dû quitter. Dans ce cas, cette inscription pourrait par exemple être rapprochée de la célèbre épitaphe des plaisirs perdus de Tiberius Claudius Secundus à Rome, qui est libellé de la sorte, je la cite en traduction, « Les bains, le vin, Vénus corrompent nos corps, mais ce sont les bains, le vin et Vénus qui font la vie. » Néanmoins, l'éloge funéraire du défunt ferait dans ce cas preuve d'un certain goût pour l'humour noir, sans équivalent ailleurs, si le « iste mulus me ad factum dabit » qui clôt le dialogue doit effectivement être compris comme « cette maudite mule causera ma mort ». Une autre hypothèse interprétative a été avancée par le philologue autrichien Herbert Bannert, toujours dans la perspective d'une interprétation funéraire du document. Selon cet auteur, l'inscription et le bas-relief qui l'accompagne reproduiraient en réalité un extrait de comédie. Il pourrait s'agir d'un passage de mime ou d'atellane, deux genres théâtraux qui s'étaient spécialisés dans la représentation satirique du petit peuple et de la vie quotidienne. Ou encore d'un extrait de comédia togata, un genre qui connaît à Rome une grande vogue au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qu'on désignait parfois par le nom de tabernaria, comédie des boutiques, ce qui correspondrait bien au choix du cadre de l'auberge. Dans cette perspective, on comprendrait mieux l'usage d'une écriture métrique dans le dialogue et la construction du texte qui ressemble effectivement à un échange comique avec des effets d'attente, de reprise et de rupture propres à déclencher le rire. Les deux premiers prix sont normaux, le troisième prix est exagéré, mais le voyageur ne bronche pas et l'obscénité de la mention de la prostituée est d'ailleurs très représentative de la comédie populaire romaine. Le retour à un prix normal pour le foin voit par contre le client réagir à contre-temps et contre toute attente, il s'en prend à sa mule plutôt qu'à l'aubergiste. Nous voyons ainsi se dessiner une scénette qui n'est pas si différente de ce que nous connaissons des comédies grecques ou romaines. Toujours selon Herbert Bannert, Lucius Calidus Eroticus serait dès lors en réalité un comédien, dont cette scène théâtrale aurait constitué en quelque sorte le morceau de bravoure et lui aurait conféré une certaine notoriété, au moins à l'échelle de la région. On aurait dans ce cas affaire à un véritable éloge funéraire, il est vrai assez original et crypté. Cette hypothèse a le mérite d'expliquer l'étrangeté de la stèle, mais on peut lui opposer le fait que le caractère théâtral de la scène n'est pas visible, contrairement à ce que l'on trouve ailleurs dans des représentations scéniques. En outre, la profession d'acteur du personnage n'est pas mentionnée dans l'inscription. De ce fait, en dehors de l'éventuelle célébrité régionale de Lucius Calidus Eroticus de son temps, la commémoration tourne court, ce qui va à l'encontre des principes de la culture funéraire romaine. Toujours en s'appuyant sur les conclusions de Herbert Bannert, on pourrait enfin proposer une alternative, à savoir que Lucius Calidus Eroticus a réellement exercé le métier de caopo et qu'il avait choisi de faire représenter sur sa tombe un passage d'une comédie célèbre qu'il jugeait emblématique de sa profession. Ni le texte, ni le bas-relief, directement ou par le biais de la confrontation avec d'autres sources, ne permettent toutefois de trancher avec certitude en faveur de l'une ou de l'autre de ces hypothèses. Et du reste, une seconde interprétation a pu être avancée pour ce monument, qui a par ailleurs ma préférence, à savoir celle d'une enseigne publicitaire qui parodierait, sous une forme humoristique, le libellé des inscriptions funéraires. Cette hypothèse a pour elle le nom des personnages mentionnés, Lucius Calidus Eroticus et Fania Voluptas. outre les transparents Eroticus et Voluptas, Calidius peut faire écho au terme calidum, qui désigne en latin un vin tiède coupé d'eau. Tandis que, selon l'épigraphiste italien Ivan Di Stefano Manzella, le gentilis fania serait une allusion à la lex fania cibaria, une loi somptuaire du IIe siècle avant Jésus-Christ, dont le nom était devenu proverbial à Rome. La double référence au plaisir du corps et de l'alimentation ou de la boisson, dont il est ensuite question de nouveau dans l'addition, semble trop belle pour être véritable. Toutefois, remarquons que, considérés isolément, ces gentilis et cognomina sont attestés en Italie au 1er siècle après Jésus-Christ. Une inscription d'Aesernia voit d'ailleurs un Marcus Calidius Balbinus commémoré par son fils Lucius, tandis que, toujours à Aesernia, une autre inscription évoque une Fania Lea. Mais l'accumulation de signifiés que présente notre stèle et son onomastique est en revanche sans comparaison. D'autre part, on trouve effectivement au sein de la documentation épigraphique occidentale quelques inscriptions à caractère publicitaire qui, dans leur libellé et leur aspect formel, se rapprochent d'inscriptions funéraires. Toutefois, la référence n'est jamais poussée aussi loin que la stèle d'Aesernia. Le seul parallèle possible est constitué par l'inscription CIL 6-9556, une enseigne qui vante les mérites d'un marbrier graveur du Champ de Mars et qui s'ouvre justement par une invocation au dieu Mars. Mais ici, le choix du formulaire funéraire paraît déterminé par la profession exercée par le commanditaire de l'inscription, qu'il s'agisse d'un trait d'humour ou plus sûrement d'une manière pour lui de faire preuve de ses talents de gravure. Le monument d'Aesernia s'en trouverait de nouveau renvoyé au rang d'énigmatique unicum. Par conséquent, aucune inscription ne domine pour ce monument tout à fait unique en son genre. Le détail de l'inscription et du bas-relief peut être corroboré par le reste de la documentation disponible, mais la lecture réaliste de l'ensemble doit être au moins mise en doute, contrairement à l'approche qui est généralement adoptée à son sujet dans l'historiographie. Sans doute convient-il d'inscrire ce monument dans le champ des représentations associées à l'activité hôtelière dans le contexte culturel romain, plutôt que d'y voir le reflet de pratiques réelles, sans du reste que ces deux dimensions entrent forcément en dissonance.